Salut, ici Ziad Malouf de l'Atelier des médias. Retour sur une nuit pas comme les autres, nous sommes le 13 novembre 2015.
Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. J'ai également demandé qu'il y ait des renforts militaires. Ils sont en ce moment sur l'agglomération parisienne, pour être sûr qu'aucune attaque ne puisse de nouveau avoir lieu. J'ai également convoqué le Conseil des ministres. Il va se tenir dans quelques minutes. Deux décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite, et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes qui sont hélas constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire.
Vous venez d'entendre la voix de François Hollande dans ce discours prononcé le 13 novembre à 23h53. Le président de la République française proclame l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Cela vise, je cite, à renforcer les pouvoirs des autorités administratives et restreindre les libertés publiques avec deux dispositions emblématiques, les assignations à résidence de suspects et les perquisitions sans l'autorisation d'un juge. C'est la sixième fois que cet état d'exception est instauré en France, sixième fois depuis 1955, date à laquelle l'état d'urgence a été défini par la loi 55-385. Comme le prévoit ce texte, plusieurs fois amendé, c'est le Parlement qui peut décider de prolonger l'état d'urgence au-delà de 12 jours. C'est ce qui a été fait en France par l'Assemblée nationale le 20 novembre 2015 à la quasi-unanimité, 336 voix pour, 12 abstentions. Nos élus ont alors choisi d'instaurer un régime d'exception pour 3 mois jusqu'au 26 février 2016. Le président de la République a depuis déclaré qu'il souhaitait une nouvelle prolongation au-delà du 26 février. Il a également proposé d'inscrire l'état d'urgence dans la Constitution aux côtés de la déchéance de nationalité. La révision de la loi fondamentale française est d'ailleurs débattue depuis ce vendredi. À la veille d'une possible prolongation de l'état d'urgence et alors que ce régime d'exception est susceptible d'entrer dans la Constitution, il nous a paru essentiel de nous interroger sur ses conséquences en termes d'information et de liberté d'expression.
L'Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Comment couvrir l'état d'urgence? C'est la question que nous avons choisi de poser dans l'atelier aujourd'hui. Une question d'autant plus pertinente que le texte qui définit ce régime d'exception prévoit originellement de contrôler la presse. Un contrôle qui n'a pas été appliqué en 2015, mais il s'en est fallu de peu. Nous en parlerons avec nos invités. Bonjour Laurent Bourdon.
Bonjour.
Bonjour Camille Bordonnet.
Bonjour.
Vous êtes tous deux journalistes au Monde et tous deux impliqués dans un projet de couverture de l'état d'urgence au sein d'un blog Vu de l'intérieur qui se présente comme un observatoire de l'état d'urgence. Je vais citer, Laurent, un texte que tu as écrit le 23 novembre 2015, son titre « Observons l'état d'urgence ». 10 jours déjà depuis les attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis, Le Monde, comme tous ses confrères, a couvert de son mieux les avancées de l'enquête, la douleur des victimes et de leurs familles, le contexte national et international, et va continuer à le faire. Depuis le vote de la prorogation de l'état d'urgence pour 3 mois, vendredi 20 novembre, la France s'installe pour une longue période dans un régime dérogatoire aux libertés publiques. Le pouvoir administratif prend le pas sur le judiciaire. Nous avons donc décidé d'expérimenter sur ce blog un observatoire de l'état d'urgence. Nous aurions préféré un intitulé plus modeste, mais rien de mieux ne nous est venu à l'esprit. Explication.
Alors tout à fait, rien de mieux nous est venu à l'esprit parce que tout ça s'est fait dans l'urgence, comme le nom de l'état d'urgence l'indique. C'est une démarche profondément journalistique, c'est-à-dire que quand on a un quotidien, un site internet comme celui du Monde, on obéit à des canons journalistiques qui sont habituels. Par exemple, là, on a l'état d'urgence avec des assignations et des perquisitions. C'est les deux mesures qui ont été le plus appliquées immédiatement et depuis. Nous, on a raconté très vite la vie des assignés, dès le mercredi qui a suivi les attentats. On a raconté les perquisitions dans le journal également, notamment une perquisition qui a été ensuite très médiatisée en dehors même de nous à Saint-Ouen-l'Aumône le lundi en 8 par rapport aux attentats. Une fois qu'on a fait ça, on fait quoi ? Quand on a un quotidien, on va pas tous les jours faire un article pour raconter la vie d'un assigné. C'est pas possible, on n'a pas la place, et puis on fait des choix, et puis ça serait répétitif pour le lecteur, etc. Quand on a un site internet comme celui du Monde, dans une période comme celle de décembre 2015, on a des dizaines d'articles qui arrivent en permanence, on a un flux continu d'informations, et si, pareil, si on met des portraits d'assignés, des récits d'assignation, des récits de perquisition, tout ça va finir forcément noyé dans le flux d'une information plus globale. Donc on s'est dit qu'il était plus efficace de réserver sur le site un endroit, alors ça tombe bien, moi j'avais un blog qui traitait des questions de sécurité, il suffisait de changer le bandeau et puis de décréter comme ça que c'était un observatoire de l'état d'urgence, un endroit où les lecteurs pourrait vraiment identifier l'endroit où on raconte l'état d'urgence. Ça ne nous a pas empêché, ça ne nous empêche pas de le raconter ailleurs, mais ça permet d'avoir un endroit extrêmement identifié qui dit, voilà, l'état d'urgence c'est exceptionnel, son application est exceptionnelle, parce que tu rappelais que l'état d'urgence a été appliqué à plusieurs reprises depuis 1955, mais en réalité, la première fois qu'il a été appliqué avec une telle ampleur, je veux dire, en 2005, il y a eu, je crois,
au
moment des émeutes de 2005, il y a eu, ça s'est compté sur les doigts d'une main le nombre de perquisitions, il n'y a pas eu d'assignation.
Et puis c'était limité.
Là, c'est vrai que le lundi qui a suivi les attentats, quand on s'est réveillé le matin et qu'on a découvert qu'il y avait eu déjà, je crois, 160 ou 200 assignations et des dizaines, voire des centaines de perquisitions, on s'est dit, oulala, là, il y a vraiment un sujet à couvrir quotidiennement.
Et quand on décide de couvrir ce sujet, comment on fait ? Comment est-ce qu'on a accès aux informations sur les perquisitions, sur les assignations à résidence ?
Objectivement, le premier réflexe, c'est d'envoyer un SMS à tout son carnet d'adresses et notamment aux avocats pour voir si parmi leurs clients ou s'ils ont été contactés par des gens qui sont assignés. Enfin, moi, ça a été mon premier réflexe, effectivement, ce fameux lundi qui a suivi les attentats quand on a découvert que l'état d'urgence allait être appliqué de manière forte. Aujourd'hui, on sait pourquoi. Hein. C'est Matignon qui a en fait préparé dans les mois précédents cette mise en place de l'état d'urgence en cas de gros attentats. Donc c'était quelque chose qui avait été anticipé.
Quand on suit l'actualité générale comme toi, qu'on est spécialisé dans la police, est-ce que l'état d'urgence est également un état d'exception en termes d'accès à l'information ?
Nous, notre démarche, voilà, pour parler clairement, c'était quand même d'être évidemment le plus objectif possible sur chaque cas dont on parlait, et notamment d'avoir les explications des préfectures, par exemple, pour ce qui est des perquisitions.
Parce que c'est toujours délicat, en fait.
On a été vraiment très contraints par le fait que certaines préfectures traînaient pour répondre, n'ont pas voulu répondre, etc. Donc, au bout d'un moment, on a considéré que si au bout de 3 ou 4 jours, une préfecture ne souhaitait pas répondre, on l'indiquerait, mais qu'on ferait quand même on traiterait de tous les cas.
Je vais lire un autre extrait de votre blog. Son titre, c'est « Improvisation, raté, brutalité, plus d'un mois dans une France en état d'urgence ». Ce texte est daté du 21 décembre, c'est toi qui le signes, Laurent. Au fond, la question qui a donné naissance à notre observatoire de l'état d'urgence, installé sur lemonde.fr depuis le 23 novembre, est assez simple. Que se cache-t-il derrière les bilans chiffrés communiqués par le ministre de l'Intérieur et même par le Premier ministre pour afficher leur réactivité après les attentats du 13 novembre ? Tant de perquisitions, tant d'assignations à résidence, tant d'armes saisies, tant de drogues confisquées. Tiens, de la drogue, on pensait pourtant que les mesures liées à l'état d'urgence n'étaient destinées qu'à lutter contre le terrorisme. Rapidement, les témoignages spontanés, la lecture attentive de la presse régionale qui assure un suivi détaillé du sujet nous ont permis de déceler des points communs, une ambiance générale, un contexte. L'improvisation, l'exagération dans la communication, la brutalité de certaines opérations, les récits que nous avons recueillis ne prétendent pour autant ni à l'exhaustivité ni à la représentativité, il raconte simplement le quotidien d'un état d'urgence inédit dans son ampleur.
Voilà, ça c'était la conclusion au bout d'un mois. Tout à fait.
Aujourd'hui, on a encore des chiffres. 3189 perquisitions administratives au 29 janvier, 541 armes saisies, 41 armes de guerre dans ces 541, 382 interpellations, 332 gardes à vue, 406 assignations à résidence. Qu'est-ce qu'il raconte, ces chiffres ?
Il ne raconte rien. Et je trouve qu'il y a quand même une chose qui est extrêmement intéressante du point de vue de la communication, et puisqu'on est dans une émission sur les médias, c'est que finalement, quand on regarde bien dans le détail, et Dieu sait que c'est mon quotidien, depuis 2 mois et demi, le ministère de l'Intérieur et Matignon, qui sont en pointe dans la défense de cet état d'urgence et dans la promotion des chiffres que tu viens de citer, sont incapables de mettre en place une communication sur des éléments qualitatifs, en fait. On n'est que sur le quantitatif. C'est-à-dire que pour expliquer qualitativement ce que ça apporte dans la lutte contre le terrorisme, ils ne le font même pas, en fait. Ils ne le font pas parce que c'est tout simplement impossible. Donc, je pense qu'effectivement, ces bilans chiffrés... C'est vrai que nous, on s'est retrouvés embarqués aussi au début là-dedans, malgré l'Observatoire. À chaque fois, le ministre de l'Intérieur parle, il donne des nouveaux bilans, on va faire un article pour mettre à jour le bilan chiffré. Mais au fond, ces chiffres ne veulent rien dire, et je pense que c'est une belle preuve que, par ailleurs, les chiffres, dès qu'on parle de sécurité, de délinquance, de justice, faut faire attention au bilan chiffré.
Et puis, il y a une grande différence entre le nombre de perquisitions et les effets véritables, c'est-à-dire les objets saisis, les procédures. Il y a, j'ai noté dans un article de Libération, 5 procédures pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. C'est pas beaucoup par rapport à tous les chiffres de perquisitions, d'assignation à résidence. Et il y a une information judiciaire.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs que quand François Hollande, au début de l'année, a essayé de communiquer autour de ça, je pense que un conseiller a dû lui présenter le discours avec les 5 procédures et qu'il a dû un peu râler en disant « mais c'est pas possible, c'est vraiment trop ridicule ». Et donc au final, il a décidé de rajouter également les procédures qui avaient été faites pour apologie du terrorisme. Ce qui faisait un peu masse, nous on l'a écrit, donc comme ça faisait, je crois, au lieu de 5, ça faisait peut-être une vingtaine de procédures, tout de suite c'était mieux. Sachant que les procédures pour apologie, ça veut dire qu'en gros, en fouillant l'ordinateur d'un perquisitionné, on a trouvé un post Facebook favorable à l'État islamique, ce qui est répréhensible d'ailleurs, et réprimé en l'occurrence, mais évidemment, dans la lutte contre le terrorisme, on peut pas dire que ce soit un élément majeur, quoi. Et récemment, dans le compte-rendu du Conseil des ministres de mercredi, qui défend la prolongation de l'état d'urgence, la réalité a été un peu tordue, puisqu'il parle même d'un projet, parmi ces 5 procédures, d'un projet terroriste qui aurait été empêché par une perquisition administrative. Alors, ça nous a beaucoup intrigués, puisqu'on s'était intéressé à tous ces cas et aucun projet terroriste n'avait été porté à notre connaissance. Surtout, on trouvait ça un peu surprenant que aucune communication n'ait été faite autour de ce projet terroriste et qu'on le découvre au détour d'un communiqué sur le Conseil des ministres. Et en réalité, on a découvert que, en fait, de projet terroriste, c'était simplement, pareil, une vidéo postée par l'une des personnes perquisitionnées administrativement, dans laquelle il menaçait les policiers. Voilà, cette personne est mise en examen, c'est très bien, mais on n'est pas sur le projet concret.
Camille Bordonnet, tu travailles toi aussi sur ce blog. Comment est-ce que tu retrouves des histoires? Comment est-ce que tu travailles sur ce sujet?
Alors, de la même manière que Laurent l'a dit, oui, en passant donc par les avocats, évidemment, mais aussi, au-delà des avocats, il y a une aide qui nous est apportée par notre service de documentation qui, tous les jours, du coup, nous fait une sélection des articles de la presse quotidienne. Et c'est vrai que c'est une mine de sujets parce que, voilà, en consultant ces articles auxquels on n'aurait pas forcément accès, on trouve des histoires sur lesquelles parfois on décide de rebondir, de creuser, d'aller voir. Et il y a aussi cette adresse mail, du coup, mise en place avec le blog qui fait que...
À la fin de chaque billet, il y a une adresse que vous avez créée ad hoc.
On a eu, donc, du coup, c'est un cercle vertueux. On a eu quelques remontées, depuis plus on écrit d'articles, plus on a de remontées. Donc voilà, il y a quelque chose qui se met en place aussi avec les lecteurs.
Votre blog propose des analyses, mais aussi et peut-être surtout des histoires. Je vais essayer de m'arrêter sur deux d'entre elles. Alors c'est un peu difficile parce que ce sont des vraies histoires et c'est difficile de citer un passage. J'ai sélectionné en tout cas quelques passages et je vous invite à commenter ce qui vous parle ou ce qui vous paraît représentatif de l'ensemble des autres histoires. Tout d'abord, le récit d'une perquisition. Son titre, État d'urgence, le serrurier nous l'a bien dit, en ce moment, on n'arrête pas. C'est un billet publié le 9 décembre, signé Elisabeth Pinault. Je cite, « Les faits remontent à la nuit du lundi 23 au mardi 24 novembre. Ce soir-là, Hélène est seule à son domicile. J'ai éteint la télé vers minuit et demi et je me suis couché. Ensuite, environ un quart d'heure après, j'ai été réveillée par un grand boom. On tapait violemment contre ma porte et j'ai aperçu des torches, raconte Hélène. Hélène croit d'abord à un cambriolage et se précipite vers le mur mitoyen qui la sépare de ses voisins. J'ai hurlé « Au secours, appelez la police !» ignorant qu'elle se trouve en réalité devant sa porte. Ça a duré plusieurs minutes et puis ils ont fini par rentrer. Je me suis retrouvé face à 6 ou 7 hommes armés. L'un des policiers m'a alors tendu un papier en disant « Lisez ça si vous savez lire ». Le papier, un ordre de perquisition, mentionne le nom et le prénom de son ex-conjoint. Je leur ai alors expliqué que je vivais seul avec mon fils de 9 ans et demi en situation de handicap, mais l'un d'eux m'a dit « De toute façon, on est en état d'urgence, on fait ce qu'on veut ». Les policiers se contentent de jeter un œil à la salle de bain, d'ouvrir un placard dans la chambre de son fils avant de quitter les lieux. Une demi-heure après leur départ, l'un d'eux revient accompagné d'un serrurier. Il a seulement changé la serrure, mais il restait un trou béant dans la porte. Le policier m'a dit qu'il reviendrait le lendemain avec un devis pour la remplacer.
Quand on travaille sur les violences policières, et moi c'est mon cas puisque je traite effectivement de l'actualité du ministère de l'Intérieur au quotidien, on a souvent un problème de parole contre parole et on manque d'éléments, on a objectivement toujours peur, ce qui est légitime, que le témoin exagère, etc.
Nous, là, je pense qu'il y a les détails sont
là. Ce qui était très frappant, c'est que en fait tous les témoignages, sans même qu'il y ait évidemment de possibilité de concertation et sans même au départ que les gens aient pu lire d'autres témoignages et tout ça, tous les témoignages étaient étonnamment similaires
dans
leur violence, tout ce qu'on vient de décrire. Et surtout, nous, pour nous, ce qui a été vraiment déterminant, je pense que c'est effectivement cette perquisition d'un restaurant à Saint-Ouen-l'Aumône, qui est la première perquisition qu'on a racontée hors blog, où là, le monsieur avait de la vidéosurveillance. Donc, de fait, tout ce qu'il nous a raconté, moi, j'ai pu le voir de mes yeux vus. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où on s'est rendu compte que, clairement, les témoignages de brutalité étaient juste totalement étayés, quoi.
Je continue la lecture. Entre-temps, ses voisins, donc les voisins de cette dame, priaient de rester chez eux pendant l'intervention, accourent en pyjama. Hélène réussit à joindre son frère qui arrive à son tour. Marie et Nicolas, un couple qui vit au 4e étage, racontent. Hélène et son frère ont appelé son ex-compagnon devant nous pour lui indiquer qu'il était recherché, l'invitant à se rendre au commissariat. Hélène poursuit. Quand il s'est présenté dans la nuit, les policiers l'ont invité à rentrer chez lui en lui précisant qu'il viendrait perquisitionner son domicile dans les 2 heures. Ce qu'ils ont fait, ils ont fouillé 2-3 cartons avant de repartir. Il leur a demandé s'il était fiché S, mais ils lui ont dit que non. Les jours suivants, Hélène attend en vain le retour du serrurier censé lui apporter le devis de réparation de sa porte. Le 26 novembre, le commissariat laisse finalement un message sur son répondeur que Le Monde a pu écouter. Compte tenu que vous hébergez ou avez hébergé le monsieur qui était mis en cause, vous n'avez le droit à aucune indemnisation. Voilà, c'est très bien. Fin de citation. Au revoir, madame.
Voilà. On a été quand même confronté à beaucoup de cas.
J'ai oublié la fin du billet. Contacté par Le Monde, la préfecture des Hauts-de-Seine ne souhaite pas communiquer de façon individuelle sur les perquisitions administratives. Ouais. Ça, c'est important de
le rappeler. C'est une politique qui s'est mise en place assez rapidement dans les préfectures. Et il y a une très bonne raison pour laquelle, en fait, ils ne communiquaient pas sur les cas individuels. C'est que cet état d'urgence a été mis en place dans une telle, quand même, précipitation, même s'il y avait eu des préparatifs à l'avance, qu'en réalité, les préfets n'avaient pas de compte rendu. C'est-à-dire que les policiers n'ont fait aucun compte-rendu de ces perquisitions, au contraire de ce qui se fait en judiciaire, lors d'enquêtes judiciaires. Donc en réalité, les préfets ne pouvaient pas nous répondre grand-chose. Je veux dire, les préfets, entre leurs mains, ils avaient les 2 lignes de justification de pourquoi on est allé chez Monsieur X ou Madame Z, et ils avaient un procès-verbal de perquisition où il y avait juste marqué RAS, rien à signaler, et basta. Il n'y a pas marqué, on a fouillé telle chose, on est allé dans telle chambre, on a cassé la porte, on n'a pas cassé la porte, rien du tout. Donc très peu d'éléments concrets.
Et puis s'ils communiquent peu, c'est aussi parce qu'il y a, a priori, d'après les récits, beaucoup d'erreurs. Là, typiquement, ils se sont rendus chez l'ex-compagne de la personne qu'ils recherchaient. Il y a des erreurs comme ça, ou des personnes qu'on a assignées à résidence et à qui on a demandé de pointer dans des commissariats qui étaient très éloignés de là où ils vivaient, etc., etc.
Oui, ça c'est certain que de toute façon, les listes d'objectifs, comme on dit en termes policiers, ont été fixées un peu dans la précipitation. Et il y a eu quand même proportionnellement un assez grand nombre d'erreurs sur les adresses, sur la réalité des faits, sur la porte. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de voisins qui se sont fait défoncer leur porte parce que, en fait, c'était le monsieur d'à côté qui était visé.
On va marquer une courte pause dans l'atelier, on se retrouve dans un instant. Vous pourrez notamment écouter le témoignage de Mathieu Magnodex de Mediapart, qui a été témoin d'une soirée très étrange en commission des lois à l'Assemblée nationale, où le contrôle de la presse a failli être rétabli. Nous donnerons aussi la parole à Adrienne Charmé-Alix de la Quadrature du Net, une organisation qui milite pour les libertés en ligne et qui combat l'état d'urgence depuis sa mise en place en novembre. Restez avec nous. Atelier des médias, nous analysons cette semaine l'état d'urgence instauré en France depuis le 14 novembre et prolongé de 3 mois par le Parlement. Le 20 novembre, le président de la République souhaite le reconduire à nouveau pour 3 mois et l'inscrire dans la Constitution. Des débats parlementaires vont jalonner le mois de février. Il nous a paru essentiel d'interroger la dimension informationnelle de cet état d'exception. Comment couvre-t-on l'état d'urgence et quelles limites imposent style à la liberté d'expression? Nous en parlons avec nos invités, Laurent Boredon et Camille Bordenet du Monde, ainsi qu'Adrienne Charmé-Alix de la Quadrature du Net.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous?
Do I know you? Do you know me? Did you really size me up? It's a misunderstanding.
Avant de donner la parole à Adrienne Charmé-Alix, je voudrais vous faire entendre le témoignage du journaliste Mathieu Magnodex de Mediapart. Mathieu a publié le 20 novembre 2015 un texte intitulé « Les censeurs » qui commence ainsi. « Le soir, il est rare que je rentre chez moi en tremblant. C'est pourtant arrivé mercredi 18 novembre au soir. Je ne revenais pas d'un terrain de guerre, je n'avais pas passé ma journée à parler à des rescapés de la tuerie de vendredi. Ce soir-là, je rentrais juste de l'Assemblée nationale. »
D'abord, il faut raconter l'endroit un petit peu où on est. On est au deuxième sous-sol de l'Assemblée nationale, en salle de commission, dans la commission des lois, qui s'occupe vraiment de voter les lois régaliennes, hein, qui concernent la police, l'intérieur, la justice, etc. Et c'est très important parce que depuis la réforme constitutionnelle de 2008, eh bien, c'est dans les commissions que le texte vraiment finalisé avant l'examen dans l'hémicycle est préparé. Donc ça veut dire que si des choses sont adoptées en commission, il y a de fortes chances que derrière ce soit le texte définitif, sauf si évidemment il y a d'autres débats dans l'hémicycle, mais c'est assez rare maintenant depuis la réforme constitutionnelle. Donc c'est un endroit tout à fait stratégique où va se discuter donc le texte sur la prorogation de l'état d'urgence. Donc on est juste après les attentats, le 18 novembre au soir, et donc le texte va arriver le lendemain dans l'hémicycle. Donc on est dans une situation d'urgence, hein, vraiment tout ça arrive très très vite. Les députés viennent de prendre connaissance en fait du texte sur l'état d'urgence, donc ils savent que ça va être instauré pour 3 mois et qu'il va y avoir visiblement un certain nombre de nouvelles dispositions. Et parmi ces dispositions, il y en a une qui est assez symbolique, qui est la suppression du contrôle de la presse. Il faut savoir que la loi de 1955, qui a instauré l'état d'urgence, a prévu d'instaurer le contrôle de la presse, de toutes sortes de diffusions, en fait, dans le cadre de la loi sur l'état d'urgence. C'est une disposition qui a été utilisée, contrairement à ce que disent certains, quelquefois, notamment au moment de la guerre d'Algérie. Et François Hollande a décidé de l'enlever de ce texte, en considérant que c'était désormais un petit peu anachronique. Donc on arrive dans cette commission des lois, et là arrive une députée qui s'appelle Sandrine Mastier, qui est une députée de Paris, et avant l'examen en commission des lois, elle me dit « Voilà, moi j'ai déposé un amendement qui est destiné à finalement remettre le contrôle de la presse. »
Alors là, je... Le maintenir en fait.
Voilà, le maintenir, c'est-à-dire ne pas l'enlever comme le président de la République l'avait décidé. Cet amendement n'est pas signé que d'elle, hein, d'ailleurs, il est signé aussi de nombreuses personnalités socialistes, en fait. Et elle m'explique, oui, parce que c'est vrai que c'est pas politiquement correct, mais moi, je suis très choqué par ce qui s'est passé en janvier au moment de l'hypercachère, où il y a eu, hein, vous vous rappelez, l'attitude de BFM TV qui avait signalé la présence d'otages dans l'hypercachère, ce qui aurait pu être problématique, c'est vrai, pour la vie de ces otages. Et a dit texto, le problème, ce n'est pas la liberté d'informer, le problème, c'est que la liberté d'informer n'est pas le droit de mettre en danger. Et cet amendement dit donc que la loi prorogeant l'état d'urgence peut habiliter les autorités administratives à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales. Et elle me cite notamment, à ce moment-là, l'exemple des représentations théâtrales de Dieudonné. Mais, bon... La difficulté, c'est que quand on fait un texte comme celui-là, évidemment, on ne peut pas viser spécifiquement hein, BFM TV ou Dieudonné. Donc là, il était question d'instaurer dans la loi encadrant l'état d'urgence, qui a visiblement vocation à être existant pour les Français pendant un certain temps, d'instaurer un contrôle de la presse. C'est-à-dire que il y a de fortes chances que François Hollande ne soit pas un ennemi de la liberté de la presse, mais avec exactement le même texte, un autre président ou une autre présidente plus tard, suivez mon regard, pourrait tout à fait utiliser le texte comme il l'entend ou comme elle l'entend. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est finalement la réaction des autres élus et la façon dont le débat s'est noué à partir de ce moment-là avec des arguments un peu étranges. Alors il y a quand même eu quelques députés pour dire attendez là, on s'occupe de quelque chose qui dépend de la libre administration des médias, c'est parlementaire, le pouvoir n'a pas à finalement décider du contrôle de la presse, c'est gravement problématique, etc. Mais quand même beaucoup de députés étaient au contraire sur la ligne de dire voilà, nous avons un problème avec ces questions-là. Parfois, des publications au sens très large peuvent mettre en cause la sécurité et notamment des forces de l'ordre. C'est un vrai souci. À ce moment-là, le président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, qui connaît très bien tous ces domaines, quand même prend la parole en disant là, écoutez, je pense qu'on a un problème. On peut pas instaurer comme ça le contrôle de la presse. Vraiment, ça nous ramènerait très très loin en arrière. Et à ce moment-là, surtout, tombe sur les portables des députés socialistes un SMS du collaborateur de François Hollande, qui s'appelle Vincent Feltès, qui est chargé de suivre les questions parlementaires et les élus, et qui dit non, mais cet amendement-là, pas possible, on le passe pas. Et donc, Sandrine Mastier et les autres décident de retirer leur amendement. Sandrine Mastier m'a redit après, vous savez, mon amendement, ok, je l'ai retiré, mais si je l'avais pas retiré, peut-être qu'il aurait été voté. Donc aussi sous la pression des événements et par l'envie de vouloir faire quelque chose dans ce moment où les parlementaires ne peuvent pas faire grand-chose, peut-être que nous aurions eu, dans cet état d'urgence, en tout cas en première instance, avant un second vote peut-être, le contrôle de la presse instauré.
Le texte que tu as écrit donc au soir ou juste après le mercredi soir, tu dis que tu es rentré chez toi tremblant, que tu as eu peur de ce dont tu as été témoin. Quelle leçon tu tires de cette expérience ?
C'est assez intéressant comme expérience, même si c'est parfois en effet un peu troublant. D'ailleurs, j'ai mis 2-3 jours pour m'en rendre compte, puisque ce texte a été écrit 2 jours après la commission des lois, pour un moment un peu plus calme, où j'ai fait un peu le bilan de ce qui s'était passé. Je me suis rendu compte du moment tout à fait particulier et un peu historique, là, que j'avais vu sous les yeux. C'était juste quelques instants. Mais ce qui m'avait le plus frappé, c'est de voir des gens que je côtoie habituellement, qui ne me semblaient pas jusqu'ici être des gens voulant nous priver de liberté publique. Et là, on se retrouve dans une situation où les mêmes sont comme pris de panique. Ils se disent qu'il faut répondre à l'attente des Français, trouver une façon de le faire. Et ils cherchent des réponses. Et en l'occurrence, là, les réponses étaient des réponses, on peut dire, si on est gentil, malhabiles, maladroites. Et si on veut être méchant, carrément autoritaire. Donc c'est très étrange de constater que nous sommes dans une démocratie très fragile. Et que même l'Assemblée nationale, où les débats sont quand même assez cadrés, il peut y avoir parfois des moments comme ça où beaucoup de gens à la fois ensemble, comme dans un mouvement moutonnier comme ça, perdent leur raison et de bonne foi d'ailleurs en viennent à être sur le point de voter des choses, à mon sens, très problématiques pour la démocratie. C'est assez troublant parce que j'ai 35 ans et que je ne pensais pas vivre ça forcément dans ma vie.
C'était Mathieu Magnodex de Mediapart au micro de l'Atelier des médias. Bonjour Adrienne Charmé-Alix.
Bonjour.
Tu représentes ici la Quadrature du Net, une organisation qui défend depuis plusieurs années les libertés numériques. Nous t'avions reçu notamment au moment des débats parlementaires liés à la loi renseignement, c'était en avril dernier. Depuis le mois de novembre, ton organisation milite contre l'état d'urgence. Votre premier texte qui dénonce cet état d'exception remonte au 19 novembre exactement, un moment où peu d'organisations osaient critiquer cette mesure. Tu peux nous expliquer ?
Oui, en fait, notre premier texte, il remonte au 15 novembre. Quand on a appris les attentats, on était tous derrière nos ordi. Enfin, pas tous, parce que une grosse partie de notre équipe juridique, salariés, bénévoles, était en train de boire des bières Place de la République. Donc d'abord, on a checké que tout le monde était bien là. Et puis ensuite, on a commencé à réfléchir. On a reçu, dès le samedi matin, des mails d'insultes disant que c'était de notre faute. parce qu'on avait lutté contre la loi sur le renseignement, on s'était opposé à la loi antiterroriste de 2014 et que ben ça montrait bien qu'on était dans l'erreur. Et donc c'était assez violent comme réaction. On s'y attendait, mais c'était violent. Je crois que c'est pas tant la déclaration de l'état d'urgence qui nous a perturbé ou choqué au départ, c'est la déclaration immédiate de son extension. C'est-à-dire que à partir du moment où il a été déclaré, je crois le vendredi soir, François Hollande déclare l'état d'urgence, et dès le samedi, Manuel Valls dit il sera étendu dans sa durée et dans son périmètre d'action. Et là, comme on commence à connaître un petit peu l'action du gouvernement sur les questions antiterroristes et sécuritaires depuis 2012, on savait à peu près vers où ça allait aller. On s'est dit qu'il fallait poser une parole pas polémique, de regarder la question de manière plus lointaine en demandant vraiment une vraie évaluation des lois antiterroristes, des lois sur le renseignement, leur impact sur la liberté, les questions géopolitiques, sociales, culturelles, enfin le terreau du terrorisme, c'est extrêmement large. Donc on a pris une position très critique dès le départ, et quand on attendait cette loi, qu'on a connue le mercredi à 15h...
Donc c'est le projet de loi le mercredi, après le passage en commission
Et qui passait en commission une heure après. Et donc on a pris une heure pour analyser cette loi, publier cette analyse. Nous, on a cette pratique à la Quadrature de mettre en ligne tout ce qu'on fait, quasiment tout ce qu'on fait est en ligne, pour que les citoyens puissent s'en emparer et se faire leur idée. On a été extrêmement seuls sur ce sujet. Les autres organisations nous soutenaient en off, mais avaient beaucoup de mal à oser se positionner. Et puis, le même jour que Le Monde, en commençant à voir les articles sortir sur les perquisitions, etc.
Le 23 novembre,
je me suis un peu énervée en me disant, mais c'est pas possible, ça va être ça pendant 3 mois, et les députés vont se rendre compte de rien, les citoyens vont se rendre compte de rien, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ouvre un pad, qui est une page internet où tout le monde peut écrire, et on s'est retrouvé pendant 3 jours avec entre 400 et 600 personnes en permanence sur le pad.
Vous avez appelé ça recensement des joies ou pas de l'état d'urgence en France.
Voilà.
Donc c'est un document collaboratif qui rassemble tous les articles que vous trouvez, toutes les informations sur l'état d'urgence.
Voilà. On s'est dit, nous on n'est pas journalistes, on n'a pas la même approche que Le Monde, c'est-à-dire qu'on va pas s'amuser ou essayer de faire le même travail, c'est pas notre boulot. Et donc on a dans l'idée de recenser notamment ce qui sort dans la presse régionale mais aussi nationale, pour cartographier dans le temps, dans l'espace, pour éclairer les députés sur le côté très concret, donner des histoires, donner accès à la réalité des choses, et puis éclairer aussi les citoyens là-dessus, et essayer d'intégrer ça dans le débat général sur l'état d'urgence.
Quels enseignements tu tires de cette expérience, justement ?
Alors, j'en tire plusieurs. Le premier, c'est un petit peu comme ce qu'on voit sur l'Observatoire du Monde, c'est une systématisation de la violence, d'une certaine forme d'arbitraire, de « c'est l'état d'urgence, on fait ce qu'on veut ». Donc ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est que quand on a lancé ça, on a eu énormément de monde qui a relayé dans beaucoup de milieux qu'on n'avait jamais touchés, beaucoup dans les collectifs associations de banlieue avec qui toutes les associations autour des questions de contrôle aux faciès, d'islamophobie, etc., avec qui on n'avait jamais eu de contact, avec qui du coup on en a. Donc c'est intéressant de lier les libertés en ligne et les libertés ailleurs, mais même si nous on a toujours défendu toutes les libertés. Et puis ça a répondu aussi, je pense, à une demande non formulée de gens qui sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et ils nous disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils viennent nous voir et nous disent, on veut faire quelque chose. Et de leur donner ça à faire, ce recensement, c'était une manière d'agir et de se positionner contre l'état d'urgence et contre la manière dont la réponse aux attentats s'est faite en France, d'une manière individuelle, engagée et pour autant pas personnalisée.
Un mot justement sur l'évolution de ton organisation. J'aurais pu inviter toutes sortes d'organisations de défense des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, qui ont pris position contre l'état d'urgence, mais étant une émission de médias, c'est pas le propos de cette émission. En revanche, ton organisation a toujours défendu les libertés numériques, s'est spécialisée dans l'internet. On a parlé avec des représentants de la Quadrature avant, de neutralité en ligne, enfin d'enjeux liés au numérique. Comment vous vous retrouvez à militer contre l'état d'urgence ?
La Quadrature s'est vraiment positionnée pour la défense des libertés fondamentales dans l'espace numérique. Donc c'est vraiment les libertés en général, mais notre spécialité, c'est le numérique. On a dans l'équipe des geeks, des hackers, des juristes. Voilà. Et du coup, on va aborder plein de sujets qui vont de la question des données personnelles à la neutralité du net, aux questions de droits d'auteur, etc. Et puis depuis 2-3 ans, notamment en France, se pose la question de la surveillance et des questions d'antiterrorisme. Et qui, on a eu plusieurs lois antiterroristes, ou la fameuse loi sur le renseignement de l'année dernière, qui nous ont amené à nous positionner sur les questions de liberté fondamentale, parce que aujourd'hui la législation antiterroriste touche énormément ce qui se passe sur Internet, les législations sur la surveillance, le renseignement touchent énormément ce qui concerne Internet et les communications de manière générale. Donc nous, on a été amené à beaucoup travailler sur le sujet. Et sur l'état d'urgence, à un moment, c'est un réflexe aussi de notre part de dire attention, là on est en train de toucher de manière très très profond de liberté. On a, dans cette série de législations depuis 2 ans, une constante qui est l'écartement du juge judiciaire au profit de la police administrative, des services de renseignement et de la justice administrative. On le retrouve dans l'état d'urgence. Le principe de l'état d'urgence, c'est d'écarter la justice au profit de la police. Et je caricature un petit peu, c'est quand même ça.
Et d'affaiblir la démocratie en réduisant la séparation des pouvoirs.
Pour nous, voilà, nous on considère que c'est un affaiblissement de la démocratie. On s'est spécialisé dans notre opposition à l'état d'urgence sur un point particulier qui est la question des perquisitions informatiques, qui est très peu traitée, que ce soit dans la presse ou politiquement. On s'est rendu compte que les gens qui étaient perquisitionnés signaient des papiers comme quoi, effectivement, il n'y avait rien de saisi, alors qu'en fait, leurs ordinateurs étaient quasi systématiquement copiés.
Dans tous les récits de perquisition, voilà. On parle toujours donc des policiers qui ont branché des machines sur les ordinateurs, sur les appareils pour...
sur les téléphones. Et là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que les gens se rendent compte 2-3 jours après, en fait, qu'ils réalisent 2-3 jours après, ils nous contactent et tout, en disant « mais mon ordinateur a été copié, qu'est-ce que je fais ? Où sont partis mes données ?» Et personne ne s'en occupe. Et on est vraiment dans une violation massive de la vie privée. On n'a aucune information sur ce que deviennent ces données, aucune garantie qu'elles soient effacées. Et dans les lois qui vont arriver, là, de réforme pénale, etc., on a à nouveau des atteintes très lourdes à la vie privée via la saisie des données sans aucune garantie pour les citoyens.
Vous avez publié le 27 janvier dernier, je le signale, un texte avec plusieurs organisations qui s'appelle « L'urgence d'en sortir ». Dans les premières lignes, on peut lire ceci. « Les mesures de l'état d'urgence ne s'avèrent d'aucune nécessité dans une société démocratique. Non seulement elles sont possibles en droit commun, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'état d'urgence, mais leur spécificité ne tient nullement à une meilleure prise en compte du phénomène terroriste. En réalité, leur seul véritable objet est de renforcer l'arbitraire des autorités répressives, contribuant par là même à renforcer le risque terroriste. »
Oui, c'est une analyse juridique engagé qu'on a fait avec plusieurs juristes, tous très spécialisés, chacun dans un domaine. C'est là où nous, on s'est spécialisés sur les perquisitions informatiques. On avait plusieurs objectifs. Un, regarder l'effet juridique de l'état d'urgence. Le deuxième objectif était de comparer avec le droit commun, avec ce qui existe déjà, de dire, ok, qu'est-ce qui était absolument nécessaire dans l'état d'urgence et qu'est-ce qui ne l'était pas. Et là, on se rend compte qu'en fait, si on veut bien laisser la justice faire son travail avec des moyens décents, on n'a pas besoin de l'état d'urgence. Donc, pour nous, et on le voit, ce que je disais tout à l'heure, depuis 2-3 ans, cette marche, loi après loi, qui dépouille le juge judiciaire, qui est le juge indépendant, de ses prérogatives au profit de la justice administrative, qui est super liée à l'exécutif, à l'administration et à la police, au bout d'un moment, sans être complotiste ni parano, on se dit, ok, c'est une vraie logique. L'état d'urgence est un pas de plus. La prolongation de l'état d'urgence et la réforme pénale qui vont venir sont le pas supplémentaire et on a un vrai problème démocratique.
Dernier aspect de ce texte, l'urgence d'en sortir, c'est sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Vous écrivez tout un chapitre dessus et vous êtes violemment contre le fait de faire entrer l'état d'urgence dans la Constitution.
Oui, parce qu'en fait, à partir du moment où on fait rentrer l'état d'urgence dans la Constitution, il va être très difficile de l'attaquer derrière. Et dire que constitutionnaliser l'état d'urgence, c'est une manière d'empêcher des dérives est totalement faux, parce qu'en fait, on inscrit dans la Constitution la possibilité, le principe d'un état d'urgence, mais à chaque fois qu'il sera déclaré, il faudra en repréciser les contours. Et sauf que attaquer une loi qui est d'emblée constitutionnelle, puisqu'elle l'est dans la Constitution, deviendra très difficile. On se rend compte que c'est une manière de sécuriser pour le gouvernement ce type d'état d'exception. Si on veut que ça reste une exception, il ne faut pas, absolument pas, inscrire l'état d'urgence dans la Constitution.
Et d'autant plus que cette version, la dernière mouture de l'état d'urgence, a failli réinstaurer la censure de la presse, le contrôle de la presse, qui est quand même incroyable en 2015.
Oui, mais je pense que ça reviendra.
Oui.
On voit bien que de toute façon, dès qu'on essaye de légiférer là-dessus, le résultat final est quand même de museler la liberté d'expression, parce que au fond, c'est toujours le seul but. Et de toute façon, ça a déjà été le cas, parce que l'apologie du terrorisme, quand on l'a sorti du droit de la presse pour l'intégrer dans le code pénal, je veux dire, c'est quand même quelque chose...
La loi de 2014.
Toujours la loi de 2014. Pour moi, ça, c'était la mesure la plus grave de la loi de 2014. Et on le voit aujourd'hui, on l'a vu après Charlie, beaucoup moins ce coup-ci, mais on l'a vu beaucoup après Charlie, où n'importe qui, un peu dingue ou un peu bourré, ou ceci, cela, qui dit à un policier, au lieu de lui dire une insulte, lui dit une insulte, oh, et moi, je suis pas Charlie, et tout d'un coup, boum, apologie du terrorisme. comparution immédiate, juge tétanisé parce que tout le monde est tétanisé et condamnation à un an de prison ferme, ce qui est totalement aberrant, quoi. Donc, on a vu immédiatement le danger de vouloir absolument tripatouiller le droit de la presse. Je pense que le droit de la presse en France, il fonctionne depuis plus d'un siècle.
Le droit de la presse qui est en fait le droit de la liberté d'expression
en
France,
hein, tout simplement. C'est les lois de 1881, pardon. Et je pense qu'il ne faut pas y toucher et que, sincèrement, dès qu'on commence à tripatouiller là-dedans, ça a des effets délétères immédiats.
Et nous y avions consacré une émission. Adrienne, un mot sur ça et on va conclure.
Je crois que sur les questions de liberté d'expression, il faut bien se garder de différencier ce qui touche les journalistes et ce qui touche les sites internet. Là, je joue le citoyen et non le journaliste. Le blocage de sites internet sans l'intervention d'un juge qui a été voté dans la loi antiterroriste de 2014 et qui a été remis dans l'état d'urgence est quelque chose d'extrêmement grave. La liberté d'expression, elle se fait pas simplement par l'intermédiaire des journalistes. Mmh. Et là, il y a vraiment un enjeu important qui a pas été saisi à l'époque, je pense, et qui a besoin aujourd'hui, même s'il n'y a pas tant de sites que ça qui sont bloqués, une quarantaine à peu près pour l'apologie du terrorisme. Il y a un vrai problème de fond à avoir une censure de sites sans recours possible vraiment, sans transparence dessus et avec des adresses IP de chaque personne qui se connecte sur un site qui a été bloqué par le ministère de l'Intérieur. Son adresse IP est loguée et conservée par les services du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est assez dangereux.
Pour conclure, quand on explore les publications répertoriées par la Quadrature ou le blog Vu de l'Intérieur, on voit se dégager des constats. L'opacité, la tendance aussi, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est politiquement correct de dire, mais la tendance à cibler uniquement ou presque uniquement des citoyens musulmans et par extension l'amalgame entre musulmans et islamistes qu'on retrouve dans beaucoup d'affaires. Je voudrais qu'on s'arrête pour finir cette émission sur le cas de Halim Abdelmalek que tu as suivi de près, Camille. Son assignation à résidence, donc prononcée au mois de novembre, a été suspendue par le Conseil d'État le vendredi 22 janvier. Donc
oui, tout récemment. Fait. C'était même une première d'ailleurs depuis la mise en place de l'état d'urgence le 14 novembre, la première fois que le Conseil d'État suspendait une assignation. Donc c'était une manière de prouver toutes les incohérences du dossier avancé par le ministère de l'Intérieur qui pour le coup sur le papier l'homme semblait en effet très menaçant, très dangereux par son comportement. Or là c'est un excellent exemple de ce que peut avancer le ministère de l'Intérieur et quand on démonte point par point donc une note blanche, parce que là en l'occurrence c'était la note blanche qui était complètement invraisemblable.
Alors il faut expliquer ce qu'est une note blanche.
Donc une note blanche c'est donc un document produit par les services de renseignement du ministère de l'Intérieur, qui est anonyme et non sourcé. Mais en l'occurrence, une note blanche, ça peut être par exemple un document produit en 7 minutes par les services de renseignement avant la clôture de l'instruction, ce qui était le cas par exemple de la seconde note blanche qui a été produite là dans le dossier d'Halim Abdelmalek. Donc ça montre la crédibilité ou la non-crédibilité pour le coup qu'on peut leur accorder.
Donc dans son cas par exemple, la note blanche expliquait qu'on l'avait vu rôder autour du domicile d'un du rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Riz. Alors je précise juste que pendant l'audience du coup au Conseil d'État, il a expliqué que sa mère habite juste à côté du domicile en question, ce qui est tout à fait vrai. Et il a montré qu'il n'était pas en train de photographier, mais tout simplement de téléphoner. Il a montré comment
femme,
il téléphonait.
En haut-parleur. Là, c'était assez significatif. Voilà des incohérences qu'il peut y avoir. Mais au-delà de ce cas, moi, ça m'inspire une autre réflexion. C'est que là, en l'occurrence, on a jamais eu le doute quand on a pris ce dossier. On a regardé les motifs avancés. C'est vrai que sur le papier, ça pouvait sembler effrayant, puisqu'il y avait cette histoire de prétendu repérage autour du domicile d'un membre de Charlie Hebdo, qu'il aurait appartenu à la mouvance islamiste radicale, plus qu'il aurait été mis en cause dans une affaire de trafic de véhicules volés, donc ça fait beaucoup. En fait, il n'y avait aucun de ces motifs qui tenaient et qui ont pu être étayés d'ailleurs. Donc là, on n'a jamais eu le doute, mais il y a quand même, il faut, je pense, le dire, des cas où, en tant que journaliste, on peut avoir le doute à la lecture de l'arrêté d'assignation. Parce que c'est une logique, l'état d'urgence, c'est une logique du soupçon et on n'y échappe pas en tant que journaliste. On en vient à être dans des positions qui nous mettent quand même très mal à l'aise. Et,
une logique du soupçon et aussi, c'est pas exactement la même chose, mais une logique de la délation. Il y a énormément dans vos histoires de délation, de délation calomnieuse, de personnes qui ont été, parce qu'elles étaient en mauvais terme avec un voisin ou avec un collègue, dénoncées de manière calomnieuse et qui ont passé des semaines et des semaines à devoir pointer trois fois par jour au commissariat commissariat, perdre leur emploi, etc. Je voudrais donner la parole pour finir à justement Alim Abdelmalek, qui a publié dans Le Monde un texte après la décision du Conseil d'État qui a donc suspendu son assignation à résidence. Lorsque l'on m'a injustement privé de ma liberté de me déplacer et regardé comme un danger pour mon pays, j'ai éprouvé un sentiment mêlé d'amertume et d'impuissance que je veux aujourd'hui chasser. D'amertume parce que j'ai toujours adhéré aux valeurs de mon pays, la France, que mes enfants y sont nés et que j'y exerce ma profession de gérant de société avec fierté. Je n'ai jamais cherché à encourager autre chose que des valeurs humanistes en réservant ma pratique de la religion à ce qu'elle doit être intime et tolérante. Je fais simplement partie de cette majorité de musulmans en paix avec sa religion et avec son pays. Me voir reprocher d'appartenir à, je cite, la mouvance islamiste radicale m'a été plus insupportable encore que de perdre ma liberté de mouvement. D'impuissance ensuite, parce que l'assignation à résidence est une décision qui tombe de très haut, sans prévenir. Il faut trouver l'énergie de la contester en ayant le sentiment de s'attaquer à Goliath, à l'État. Je n'en veux à personne, mais j'ai peur. Peur car le ressentiment aurait pu l'emporter, car de telles sentences peuvent nous monter les uns contre les autres. Tout le monde n'a pas la force de résister. J'ai peur pour ces milliers de jeunes que de telles décisions ont pour effet de stigmatiser. J'ai peur pour les autres assignés à résidence. L'État doit veiller à ne pas se faire des ennemis dans son propre camp, à faire de l'immigré, du musulman, un bouc émissaire. On peut conclure sur ça ? Adrienne.
On est dans un climat où toute personne qui s'oppose à l'état d'urgence ou qui s'élève contre l'état d'urgence est accusée, et moi je le vois tous les jours, de complicité de terrorisme quasiment. Enfin moi on me l'a dit, hein, que j'étais complice des terroristes. Ça risque de poser un gros problème de fracture dans la société, et c'est quelque chose à mon avis dont on a besoin de s'occuper d'urgence.
Merci Adrienne Charmé-Alix de La Quadrature du Net, Laurent Boredon, Camille Bordonnet du Monde. Je signale la publication ce jeudi par Amnesty International d'un rapport sur l'état d'urgence en France intitulé « Des vies bouleversées », sous-titre « L'impact disproportionné de l'état d'urgence en France ». C'était l'Atelier des médias, une émission préparée par Manon Mella, Mélissa Barra, Mathias Virilli, Simon Decreuse et Ziad Malouf. Vous pouvez nous réécouter sur les sites de RFI et sur l'Atelier des médias. Je vous encourage aussi à podcaster notre émission en utilisant une application dédiée. Merci pour vos retours, vos encouragements, vos critiques. La semaine prochaine, nous parlerons du rôle de la radio dans les crises à l'occasion de la Journée mondiale de la radio. Au menu, un reportage à Hambourg auprès de Radio Refugee Network, signé Mélissa Barra. Salut à toutes et à tous.
RFI.